Bonjour. Merci d'être là avec nous pour cette rencontre-discussion où on va parler d'écologie d'un point de vue décolonial et de son rapport aussi avec les arts vivants. Je voulais juste resituer un petit peu le contexte de cette rencontre et pourquoi j'avais proposé ce moment-là dans le cadre du festival Danse Fabrique. Je suis Betty Chomanga, je suis danseuse et chorégraphe, je suis artiste associée au Quartz depuis septembre dernier. Et l'invitation m'a été faite en tant qu'artiste associée de participer à la programmation de ce festival qui traite des questions environnementales au sens large. Et pour moi, parler d'écologie aujourd'hui nécessite d'en parler de différents points de vue. Et j'avais, quelques mois auparavant, été très marquée par la lecture d'un livre qui s'appelle « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen », qui a été écrit par Malcolm Ferdinand, qui est ici avec nous. Et quand cette invitation m'a été faite, j'ai tout de suite pensé à ce livre-là et à cette pensée-là, et je me suis dit que ça devait être présent de différentes manières dans le festival. Donc à la fois par des propositions performatives, des propositions d'artistes, des pièces, mais aussi parce que pour moi, cette lecture, elle était nouvelle. J'avais l'impression que j'avais jamais eu l'occasion de penser les questions écologiques, environnementales en lien avec l'histoire coloniale. Du coup, je me disais que j'avais envie de partager ça aussi avec le public brestois. Et que ça valait le coup peut-être d'inviter et de prendre un temps de discussion et d'échange et d'inviter des personnes qui me semblaient être bien placées pour en parler, à la fois par leur travail et à la fois dans ce cadre-là. Donc je vais passer la parole peut-être pour que vous puissiez vous présenter. Je te laisse commencer, Malcolm.
Alors, bonjour, bonsoir tout le monde, Malcolm Ferdinand, auteur du livre « Une écologie décoloniale ».
Donc, bonjour tout le monde, je suis Sophonie Ménian, donc je suis artiste, interprète, membre du collectif de Living and the Dead Ensemble. Merci.
Bonjour tout le monde, mon nom est James Desiris. Comédien et poète, acteur, membre du collectif. Et c'est un plaisir d'être avec vous pour ce grand partage.
Bonjour, Annabelle Guéredra, chorégraphe, performeuse, co-directrice d'un festival international d'art performance en Martinique. Je vis et travaille en Martinique.
Bonjour, bonsoir, on est dans le noir, mais c'est bonjour quand même. Bonjour à tous, moi je m'appelle Olivier Marbeuf, donc je suis auteur, critique et théoricien de l'art, et on dit théoricien décolonial pour certains. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui à l'invitation de Betty. Alors moi je suis comme Sophonie, James et plusieurs autres membres de Living and Dead Ensemble présents à Brest à l'invitation du festival et de Betty au sein du festival à présenter une pièce performative qui s'appelle The Wake. Certains l'ont vu hier soir, peut-être d'autres la verront demain soir. Moi, je fais mon travail de producteur, donc je fais un peu de pub aussi, excusez-moi. Donc, demain après-midi, plutôt à 15h, et on a aussi présenté dans le cadre d'un programme de film mercredi, le film Ouverture. Et déjà, toutes ces choses-là sont un peu nos contributions au débat qui va se dérouler aujourd'hui.
Merci. Du coup, je voulais commencer peut-être par une première question pour toi, Malcolm. De partir de c'est quoi l'écologie décoloniale et de quoi on parle quand on parle d'écologie décoloniale. Et je rajoute une deuxième petite question en même temps, qui est de comment t'es venue l'écriture de ce livre.
Alors, je vais peut-être commencer par la deuxième pour arriver à la première. J'étais très rapide dans la présentation, mais je suis martiniquais. J'ai grandi, j'ai vécu en Martinique mes 18 premières années de vie. J'y vais chaque année, ma famille y vit encore. Voilà. Et que cette socialisation, on va dire, a formé ma manière de voir le monde et de comprendre un certain nombre de ses enjeux. Et on m'a dit de faire court, mais en... disons que j'étais toujours intéressé par deux types de questions depuis mon enfance, à la fois les rapports entre êtres humains, dont on comprend la colonialité en Martinique, on voit des différences entre différentes couleurs de peau, différents sexes, sans vraiment bien les comprendre, mais on le sent, même tout petit enfant, on sent qu'il y a des différences, mais on ne les comprend pas. Et en même temps, j'avais aussi un intérêt pour les enjeux environnementaux. Et ce qui était particulier, c'est que dans ces sociétés-là, et dans mon éducation, et y compris dans mon éducation universitaire ici, en Europe, j'ai toujours pensé, on m'a inculqué qu'il fallait penser ces enjeux-là de manière séparée. Si on s'intéresse à l'environnement, alors on a une bibliothèque de théoriciens, d'historiens, de sociologues, de mouvements politiques et associatifs, etc. Si on s'intéresse à la question coloniale esclavagiste ou postcoloniale post-esclavagiste, alors pareil, il y a d'autres personnes, d'autres références, et on a ce que j'ai appelé dans mon livre une double fracture, c'est-à-dire que soit on s'intéresse à l'autre, allant sans s'intéresser à l'autre, et vice-versa. Et cela a été mon expérience, y compris. Donc, ce livre est le résultat d'une thèse de doctorat en philosophie politique. Et donc, c'est même durant mes rencontres avec les philosophes de l'environnement, y compris ici en France, etc., cette double fracture était toujours là. Et donc, mon but a été de la dépasser et de montrer. Alors, quand par exemple, tu as présenté l'affaire en disant que l'écologie du point de vue décolonial. Et en fait, l'écologie décoloniale, ce n'est pas un point de vue de l'écologie. C'est-à-dire que dans mon objectif, une fois que vous arrivez à la fin du livre, vous comprendrez que l'écologie, soit elle est décoloniale, soit elle n'est pas. Pourquoi ? Parce que, disons que la manière dont historiquement, en tout cas depuis le 19e siècle à aujourd'hui, on a pensé l'écologie, on l'a pensé d'une manière qui glisse sous le tapis la constitution coloniale de la modernité. C'est-à-dire que la modernité s'est constituée avec son double, son envers, si on veut, qui est la colonisation et ce qu'elle a légué comme manière de penser le monde. Ce qu'on appelle la colonialité, qui est un peu différent de la colonisation. Et ce qui est particulier, c'est qu'un ensemble de penseurs, de ceux qui ont créé les premiers parcs de préservation, aujourd'hui ceux qui vont célébrer le sauvage, etc., ici aujourd'hui, ont voulu s'attaquer à la manière dont on habite le monde et la Terre, l'écologie, sans questionner cette colonialité, sans questionner cette histoire coloniale. Du coup, on arrive dans une sorte de monde binaire où, en fait, on veut et on défend, on veut parler de l'écologie sans engager un dialogue, une rencontre avec celles et ceux qui, peut-être, ont compris le mieux ce que ça signifiait de ne plus avoir de terre, d'avoir ces conditions de vie, d'existence complètement enlevées, etc. Et donc, en réponse à cette tradition, j'ai proposé, mais ce n'est pas moi qui ai inventé ces pratiques, mais j'ai juste nommé le terme d'écologie décoloniale, une manière de répondre à ça et de proposer une compréhension de l'écologie et de ses enjeux beaucoup plus politique, beaucoup plus complexe, et qui ne laisse pas une partie de la terre à quai.
Merci. Justement, du coup, moi, je voulais vous poser au collectif et à Annabelle. Il y avait juste une petite citation d'un article que j'avais lu dans l'IB qui avait été fait avec vous, le collectif, et où vous disiez « Si tout le monde vivait au moins une fois dans sa vie l'expérience de ne pas pouvoir sortir de chez soi, il se rendrait compte de ce que c'est qu'être un jeune haïtien aujourd'hui. » Et la question que je me posais, c'était comment est-ce que l'on voit la crise environnementale actuelle quand on vit en Haïti, quand on vit en Martinique, et en tant qu'artiste?
Oui, donc pour commencer, donc je dirais que je parle depuis Haïti, du coup, comme je suis haïtienne. Donc pour commencer, je dirais que la crise environnementale, en fait, on est confronté à ça au quotidien. D'abord parce que constamment on a des catastrophes naturelles qui provoquent la dégradation du sol, des ressources. Donc on est forcément confronté à ça, et surtout que la question de la protection de l'environnement, la sensibilisation, c'est présent, mais il n'y a pas énormément de sensibilisation par rapport à ça. Donc du coup on est constamment confronté à ça. Par exemple, quand on est dans la rue, donc on peut, il y a des endroits en fait qui sont comme des décharges en fait. On peut passer dans un coin de la rue, donc c'est une montagne d'ordures. On sait que cet endroit-là est fait pour ça. Et après, comme on n'a pas de moyens en fait de les transformer, donc on va les brûler, et ça va poser encore plus de pollution. Donc déjà, on est confronté à ça, et je pense qu'on prend de plus en plus conscience de cela en tant que jeune, artiste. Et tout le monde, donc, on se rend compte de plus en plus qu'il faut changer de comportement, qu'il faut qu'on change de pratique, en fait, qu'on peut plus continuer à ça. Mais le problème, c'est que, concrètement, en fait, on n'a pas vraiment les moyens. Surtout que, les personnes concernées, enfin, les instances gouvernementales, en fait, c'est pas une priorité pour eux. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, du coup, nous, en tant qu'artistes, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est dans notre création, d'introduire ces questions-là, d'en parler, de sensibiliser les personnes. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir suffisamment de moyens pour agir concrètement, c'est toute une problématique. Donc, je ne sais pas si, James, tu veux rajouter quelque chose.
C'est ça. Tout d'abord, c'est la conscience de voir la réalité. Mais la réalité ne tombe pas du ciel. Ça c'est quelque chose qui traduit l'histoire. C'est quelque chose qui traverse le temps. Les catastrophes qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas le résultat d'aujourd'hui, mais c'est le résultat depuis la colonisation, depuis les occupations, et puis c'est ça qu'on est en train de vivre jusqu'à présent. Et déjà, mais nous, on a une manière, on a une façon d'habiter la terre, d'habiter le pays, et qui est différent la manière dont les occupants, quand je parle des occupants, je fais référence avec les colons, je fais référence avec la colonisation et puis les occupations, c'est ça. Et puis la manière dont on déforeste la terre, la manière dont on dégrade la terre, et puis après on dit que c'est vous, on est les responsables. Mais nous, étant artistes, on dit ok, là c'est un sujet préoccupant, ok, et comment y prendre? Comme l'art, c'est la voix qu'on a pour faire passer nos messages, pour faire passer nos revendications, et puis on sert des outils qu'on a, et puis pour faire valoir ça, pour parler ça au grand public.
Merci. Et dans les mots que tu as employés, ça me donne envie de t'adresser une question en plus, Annabelle, parce que je trouve que il y a des mots qui résonnent avec des mots qui étaient dans ta performance que moi j'ai vue hier, Mami Sargassa. Et du coup, que tu puisses aussi nous parler de comment t'es venu ce travail autour des sargasses.
C'est un travail qui a démarré en 2017. Sachant que les sargasses sont là depuis plus longtemps que 2017, et elles reviennent régulièrement. Donc les sargasses, ce sont des algues toxiques qui quand elles sèchent au soleil, peuvent dégager des gaz nauséabonds, de l'arsenic inorganique niveau 3, des métaux lourds, qui peut même récupérer de la chlordécone, mais ça tu pourras nous en parler, Malcolm. Bon, sachant qu'en Martinique, on est déjà sur un sol contaminé, qui est chlordéconné, où je pense que tout le monde connaît ce scandale de la chlordécone de la République française. Donc il y a ce scandale-là, et viennent se rajouter les sargasses. Moi, quand j'ai été attirée par ces sargasses, c'est comme quand on est attiré par la toxicité ou par cette histoire coloniale qui nous colle à la peau et dont on n'arrive pas à s'en décoller, où on n'arrive pas à en guérir. Il y a quelque chose de l'ordre de la blessure. Beaucoup d'artistes antillais utilisent le mot la blesse, cette blesse qui est là. Et qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut faire un tour de magie, de sorcellerie ou une invocation pour pouvoir sortir de cette blesse? Alors quand je parle de blesse, c'est vraiment physique, c'est-à-dire que c'est dans nos chairs, c'est des formes de corporéité. Et du coup, on en parlait tout à l'heure dans les loges, mais après la question des occupations et des contaminations et de la colonisation vient peut-être, on va voir la question des réparations et pourquoi pas, allons plus loin, la question des guérisons. Mais pour l'instant, on en est encore à cette question-là des occupations. Et quand je suis arrivée près des sargasses, pour moi, c'était... je savais que c'était des algues toxiques, mais il y avait cette espèce d'intuition d'aller vers, de me les approprier, de me les invaginer, de les coloniser à mon tour, c'est-à-dire de me dire « Ah, d'accord, ce sont des algues qui nous colonisent, alors moi, à mon tour, je vais les coloniser. » Donc, ça va être peut-être déjà le début d'une réparation, mais au sens féminin, au sens archétypal. Et puis, après l'archétype, vient la réflexion, la distanciation. Oui, ce sont des algues toxiques. Oui, il y a des populations qui vivent sur le littoral atlantique de la Martinique qui s'en prennent plein la gueule tous les jours et qui doivent partir parce qu'ils ont mal à la tête, parce qu'il y a des risques de cancer, etc., etc. Et donc, du coup, ça devient une algue donc polluante, une algue toxique. Et du coup, la toxicité, elle m'a vraiment intéressée parce que je me suis dit, mais nous, qui sommes peuple antillais, nous sommes issus de cette toxicité. Nous sommes issus de ce viol collectif. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et donc je ne sais pas si ces ensargassements, c'était une manière de résoudre la crise. Moi, je pense que la performance, c'est d'abord une crise, un état de crise. Et ensuite, est-ce que la fin, l'aboutissement de cette performance, ça va être la résolution de la crise ou pas? Ou est-ce qu'on est toujours en crise? En ce moment, en Martinique, il y a quand même un gros malaise. Hein. Il y a quand même encore un gros, gros, gros malaise. On l'a encore vu là récemment avec les événements du mois de novembre. On était vraiment en mode insurrection sociale. Donc ce malaise, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on arrive à le digérer ou pas? Il y a beaucoup... Tu parlais des artistes. Enfin, comment ils se situent par rapport à ça? Moi, je pense que chacun essaie de s'en sortir comme il peut. Hein, il y a encore cette... ce mode de comportement aussi qui est très propre, je trouve, à la colonie. Et donc, du coup, comment échapper au maître ou pas? Nous, on vit avec des centres commerciaux, on vit avec une monoculture de la plantation. Quand c'était pas la canne à sucre, aujourd'hui, c'est la banane. La banane, elle a contaminé nos sols avec la chlordécone. Donc, du coup, à quel moment on peut nous-mêmes, qui vivons là, en dehors du touriste, se réapproprier nos sols, se réapproprier nos rivières, tu parlais de forêt, se réapproprier notre forêt, nos traces, nos fonds, nos mornes, comment on peut revenir dans du lacou, comment on peut revenir à des rituels, on peut se rassembler de nouveau, est-ce que c'est du vivre ensemble? Mais vraiment du vivre ensemble, hein. c'est pas là je parle pas d'un parti politique, c'est vraiment comment on revient à être ensemble. La société martiniquaise est une société éminemment apartheidisée. Moi, c'est quelque chose qui me choque, qui continue de me choquer, même si je vis là. Donc, du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui grondent, qui sont sous-jacentes, sans parler des séismes, la montagne pelée qui de temps en temps nous rappelle aussi à l'ordre, les cyclones qui nous rappellent à l'ordre, etc. Donc on est quand même très vulnérable face à cette nature qui aussi se révolte et en plus on est tout petit par rapport à la planète et en même temps j'ai cette sensation que alors est-ce qu'on est encore ou pas un laboratoire de recherche? En tout cas il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à nous, c'est intéressant aussi à voir, mais j'aimerais bien que nous-mêmes nous peuple on puisse aussi être dans la recherche et faire recherche pour pouvoir justement transmettre pour les générations futures. Et les artistes, on n'y arrivera pas tout seul. On n'y arrivera pas. Il faut vraiment qu'on décide de travailler ensemble et créer le lionnage, en plus du marronnage.